Pendant 6 mois, depuis la fin des auditions préparatoires en janvier, nous avions attendu le procès qui devait commencer en août 1958. Juste avant la reprise des audiences, le ministère public nous joua un autre tour désagréable. On annonça que l'affaire était renvoyée devant le tribunal de Pretoria, à 55 km de Johannesburg. Le procès se tiendrait dans une ancienne synagogue transformée en cour de justice. Tous les accusés ainsi que leurs défenseurs habitaient à Johannesburg et devaient donc faire le voyage chaque jour. Le procès allait désormais nous prendre beaucoup plus de temps et d'argent, et nous en avions peu. Ceux qui avaient réussi à conserver leur travail n'avaient pu le faire que parce que le tribunal se trouvait à côté. Le changement de lieu avait aussi pour but de nous démoraliser, en nous séparant de nos partisans naturels. Pretoria était le fief du Parti national et l'ANC y était à peine présent. Les 92 accusés allaient presque tous à Pretoria dans un vieil autocar inconfortable avec des sièges faits de lattes de bois. Ils partaient chaque matin à 6 heures et mettaient 2 heures pour arriver à l'ancienne synagogue. L'aller et retour nous prenait près de 5 heures, un temps qu'on aurait mieux utilisé à gagner de l'argent pour payer le loyer, la nourriture et les vêtements des enfants. Une nouvelle fois, nous avions le privilège de bénéficier d'une équipe de défenseurs brillants et agressifs, remarquablement dirigée par l'avocat Israel Meisels et composée de Bram Fischer, Rex Welch, Vernon Béranger, Sidney Kentridge, Tony O'Dowd et J. Nicholas. Le jour de l'ouverture du procès, nous nous sommes lancés dans un long débat détaillé pour contester le chef d'inculpation lui-même. Nous prétendions, entre autres, qu'il manquait de précision. Nous soutenions aussi que la violence organisée était nécessaire pour prouver la haute trahison. Et l'accusation devait fournir des exemples montrant que nous avions eu l'intention d'utiliser la violence. À la fin de notre démonstration, les 3 juges semblèrent d'accord. En août, la cour cassa une des 2 accusations selon la loi sur l'interdiction du communisme. Le 13 octobre, après 2 autres mois de combat juridique, le ministère public annonça brusquement qu'il retirait complètement l'accusation. C'était extraordinaire. Mais nous connaissions trop bien les méthodes tortueuses du gouvernement pour nous réjouir. 1 mois plus tard, l'accusation présenta un nouveau chef d'inculpation, rédigé avec plus de soin, et annonça que seuls 30 accusés seraient poursuivis, les autres étant jugés plus tard. Je faisais partie des 30 premiers, tous membres de l'ANC. D'après le nouveau chef d'inculpation, l'accusation devait maintenant prouver la volonté d'action violente. Pirot dit que les accusés savaient bien que la réalisation des objectifs de la Charte de la liberté impliquait nécessairement le renversement du gouvernement par la violence. Un peu après minuit, le 4 février 1958, je suis rentré à la maison après une réunion et j'ai trouvé Winnie seule qui souffrait, car les premières douleurs de l'accouchement avaient commencé. Je l'ai conduite immédiatement au Baragwanath Hospital, où l'on m'a dit que cela prendrait encore des heures. J'ai attendu jusqu'au moment où j'ai dû partir au tribunal à Pretoria. Dès que les délibérations ont pris fin, je suis revenu très vite avec Duma Nokwe, pour trouver la mère et la fille qui se portaient tout à fait bien. J'ai pris la petite dans mes bras et j'ai déclaré que c'était une vraie Mandela. Mon cousin, le chef Mdingi, proposa le nom de Zenani, ce qui signifie « Qu'as-tu apporté au monde ?» un nom poétique qui incarne un défi en suggérant qu'on doit apporter quelque chose à la société. C'est un nom qu'on ne fait pas que porter. Il oblige à mener une vie qui en soit digne. Winnie devait s'adapter à la vie conjugale et à la maternité. C'était alors une jeune femme de 25 ans qui n'avait pas encore entièrement formé sa personnalité. La mienne l'était et je me montrais plutôt têtu. Je savais que les autres considéraient souvent Winnie comme la femme de Mandela. Trouver sa propre identité dans mon ombre ne lui facilitait assurément pas les choses. je faisais de mon mieux pour la laisser s'épanouir, et elle y réussit bientôt sans mon aide. En 1959, le Parlement a voté la Bantu Self-Government Act, loi sur l'autonomie bantoue, qui crée 8 bantoustans ethniques séparés. Cette loi marquait la fondation de ce que le gouvernement appelait le Groot, ou Grand Apartheid. À peu près à la même époque, le gouvernement a fait adopter une loi au nom trompeur, l'Extension of University Education Act, loi sur l'extension de l'enseignement universitaire. Un nouveau pilier du Grand Apartheid qui interdisait aux non-blancs les universités racialement ouvertes. En faisant adopter la Bantu Self-Government Act, le ministre de l'Administration et du Développement Bantu, Dr. Fervaud, dit que le bien-être de chaque individu et de chaque groupe de la population trouverait un meilleur développement dans sa propre communauté nationale. Les Africains, dit-il, ne pourraient jamais être intégrés à la communauté blanche. L'immoralité de la politique des Bantoustans, à cause de laquelle 70% de la population serait regroupée sur 13% du pays, sautait aux yeux. D'après cette nouvelle politique, même si 2/3 d'Africains vivaient dans les prétendues zones blanches, ils ne pouvaient avoir que la citoyenneté de leur homeland tribal. Le projet ne nous donnait ni liberté dans les zones blanches, ni indépendance dans ce qu'ils considéraient comme nos zones. Fervaud dit que la création des Bantoustans engendrerait tant de bien qu'ils ne deviendraient jamais des terrains favorables à la rébellion. En réalité, il se passa exactement l'inverse. Les zones rurales étaient en ébullition. Peu d'entre elles résistèrent avec autant d'obstination que la région de Zeyrust, où le chef Abraham Moïloa, avec l'aide de l'avocat George Bizos, poussa son peuple à s'opposer aux soi-disant autorités bantoues. En général, la presse ignore ces régions, et le gouvernement se sert de leur caractère inaccessible pour cacher la cruauté de ses actions. Des quantités de gens innocents furent arrêtés, condamnés, emprisonnés, bannis, frappés, torturés et assassinés. Les habitants du Zekukuneland se révoltèrent également, et le chef suzerain ainsi que d'autres conseillers furent arrêtés et bannis. Un chef Sekukune, considéré comme un laquais du gouvernement, fut assassiné. En 1960, la résistance dans le Sekukuneland était devenue ouverte et les habitants refusaient de payer leurs impôts. À Zeyrust et au Sekukuneland, les branches locales de l'ANC jouèrent un rôle essentiel dans les manifestations de refus. Malgré la sévère répression, un très grand nombre de nouvelles branches de l'ANC apparurent dans la région de Zeyrust, l'une d'entre elles réunissant jusqu'à 2000 membres. Les régions du Sekukuneland et de Zeyrust furent les premières d'Afrique du Sud où le gouvernement interdit l'ANC, preuve de notre pouvoir dans ces zones éloignées. Des manifestations éclatèrent dans le Pondoland, où l'on agressa et tua des partisans du gouvernement. Le Tembuland et le Zululand résistèrent violemment et furent parmi les dernières régions à céder. Les gens furent battus, arrêtés, déportés et emprisonnés. Au Tembuland, la résistance durait depuis 1955 avec Sabata, qui appartenait aux forces d'opposition. On dit que les moulins de Dieu tournent très lentement. Mais les machinations de Dieu elles-mêmes ne peuvent lutter contre celles du système judiciaire sud-africain. Le 3 août 1958, 2 ans et 8 mois après notre arrestation, et au bout d'une année entière de manœuvres juridiques, le véritable procès commença dans l'ancienne synagogue de Pretoria. Nous étions enfin inculpés, et 30 d'entre nous plaidèrent non coupables. Easy Maisels dirigeait de nouveau notre défense, assisté de Sidney Kentridge, Bram Fischer et Vernon Béranger. Cette fois, le procès était devenu sérieux. Pendant les 2 premiers mois, l'accusation présenta quelque 2000 documents et appela 210 témoins, dont 200 étaient membres de la Special Branch. Les policiers reconnurent s'être cachés dans des placards et sous des lits, s'être fait passer pour des membres de l'ANC et avoir utilisé toute tromperie qui leur permettait d'obtenir des informations sur notre organisation. Cependant, beaucoup de documents présentés et de discours transcrits étaient publics et accessibles à tous. Comme auparavant, l'essentiel des preuves de l'accusation se composait de livres, de lettres et de documents saisis chez les accusés au cours de nombreuses perquisitions entre 1952 et 1956, ainsi que de notes prises par des policiers pendant des réunions de l'ANC à la même époque. Comme avant, les comptes rendus de nos discours rédigés par des membres de la Special Branch étaient confus. Nous plaisantions en disant qu'entre la mauvaise acoustique de la salle et les rapports inexacts des inspecteurs de la Special Branch, nous pouvions très bien nous retrouver condamnés à des amendes pour des propos que nous n'avions pas tenus, emprisonnés pour ce que nous ne pouvions pas entendre et pendus pour ce que nous n'avions pas fait. En octobre, l'accusation cessa l'examen des preuves et passa à l'audition des experts, en commençant par le professeur Murray, le soi-disant expert en communisme, qui avait révélé une telle stupidité pendant l'examen préparatoire. Au cours du contre-interrogatoire impitoyable de Maysles, Murray reconnut que la Charte de la Liberté était en fait un document humanitaire qui pouvait parfaitement représenter la réaction et les aspirations naturelles des non-blancs devant leurs dures conditions de vie en Afrique du Sud. Murray ne fut pas le seul témoin de l'accusation à lui faire défaut. Malgré la quantité de preuves et les centaines de pages des experts, l'accusation n'avait pas réussi à fournir un seul élément définitif concernant la violence préméditée de l'ANC, et elle le savait. Puis, en mars, l'accusation reprit soudain confiance. Elle était sur le point de produire la preuve la plus écrasante. En fanfare, et avec de longs roulements de tambour dans la presse, l'accusation transmit à la cour un discours de Robert Recha, enregistré clandestinement. Il l'avait prononcé en tant que responsable des volontaires du Transvaal devant une salle comble de volontaires de la liberté, en 1956, quelques semaines avant notre arrestation. Un grand silence régnait dans le tribunal, et malgré les craquements de l'enregistrement et les bruits de fond, nous avons parfaitement compris les paroles de Robert. Si vous êtes discipliné et si l'organisation vous dit de ne pas être violent, il ne faut pas être violent. Mais si vous êtes un véritable volontaire et si on vous donne l'ordre d'être violent, vous devez absolument être violent. Vous devez tuer. Tuer, c'est tout. L'accusation croyait avoir bouclé son dossier. Mais comme le montrerait la défense, Recha insistait simplement sur l'importance de la discipline et sur le fait que les volontaires devaient obéir à tout ce qu'on leur commandait, même si cela leur était désagréable. L'un après l'autre, nos témoins montrèrent que le discours de Recha n'était pas seulement retiré de son contexte, mais qu'en outre, on ne pouvait pas le considérer comme représentatif de la politique de l'ANC. Les comptes rendus de nos discours étaient une longue exhortation à la non-violence. L'accusation déposa ses conclusions le 10 mars 1960. Et nous devions appeler notre premier témoin 4 jours plus tard. Nous avions été mis à mal pendant des mois, mais en nous préparant à témoigner, nous avions envie de passer à l'offensive. Cela faisait trop longtemps que nous nous contentions de parer les coups de l'ennemi. Le chef Loutouli fut l'un de nos premiers témoins. Avec sa dignité et sa sincérité habituelles, il fit une profonde impression sur la cour. Le chef affirma qu'il croyait en la bonté innée de l'homme et il pensait que la persuasion morale et la pression économique pouvaient très bien entraîner un changement dans le cœur d'une partie des Sud-Africains blancs. En expliquant la politique de non-violence de l'ANC, il insista sur le fait qu'il y avait une différence entre la non-violence et le pacifisme. Les pacifistes refusaient de se défendre, même quand on les attaquait avec violence. Mais ce n'était pas nécessairement le cas avec ceux qui avaient choisi la non-violence. Parfois les hommes et les nations, même non-violents, devaient se défendre quand on les attaquait. Tout en écoutant Loutouli, je me disais que les juges, sans doute pour la première fois de leur vie, écoutaient non pas leurs domestiques, qui ne disaient que ce que leur maître aimait leur entendre dire, mais des Africains indépendants et clairs, exprimant leurs convictions politiques et comment ils espéraient les réaliser. Mais, le 21 mars 1960, le témoignage du chef fut interrompu par un événement terrible qui venait de se passer à l'extérieur. Ce jour-là, le pays fut tellement ébranlé que lorsque le chef Loutouli revint témoigner un mois plus tard, le tribunal, et avec lui toute l'Afrique du Sud, n'était plus le même.